France Musique. Les grands entretiens. Lionel Esparza.
Je suis Olivier Beaumont, claveciniste. Je suis né le 15 août 1960 à Saint-Dié dans les Vosges.
Olivier Beaumont, à l'âge de 18 ans, donc 1978, vous arrivez à Paris au conservatoire pour étudier le clavecin. Qu'est-ce qui fait que vous venez à Paris? C'est, je dirais, le mouvement naturel de monter à la capitale pour travailler son instrument?
Oui, j'ai hésité entre plusieurs endroits, Genève aussi. Il y avait une très belle classe également à Genève. Évidemment, je suis venu à Paris aussi, je pense, par attrait pour la ville elle-même. Évidemment, j'étais d'une fois avec mes parents. Donc, je suis arrivé à 18 ans, effectivement, au conservatoire. J'ai eu mon prix à 20 ans et puis je fais mon premier disque à l'âge de 21 ans. Donc, les choses sont enchaînées un peu rapidement. Au conservatoire, j'étais en classe de Robert Véran-Lacroix et pour la basse continue de Laurence Boulet, qui sont effectivement deux noms un peu oubliés. Alors Robert Véran-Lacroix a été dans une mouvance, je dirais, avant le mouvement baroque, c'était le claveciniste de Rampal. Musicien extrêmement doué d'ailleurs, avec beaucoup de facilité, très fort en écriture. Il faisait des réactions de basse continue très très impressionnantes. J'en ai écouté encore il y a peu de temps. Il y avait quand même un art de l'écriture, du sens de l'harmonie qui était quand même très impressionnant. Il a fait notamment beaucoup de disques, mais il a fait un disque que je trouve vraiment, il faut lui rendre justice, absolument magnifique, qui est le disque du Concerto de Poulenc, Concert champêtre de Poulenc, qui est peut-être pour moi la meilleure version avec l'orchestre de l'ERTF et Martinon, je pense de mémoire. Et il avait connu Poulenc, qui avec joue de complètement, pour moi, dans l'esprit de cette musique-là. Et je trouve qu'il a fait ses sons un de ses plus beaux disques. Donc c'était quelqu'un de très extrêmement agréable. C'est un secret pour personne. C'est quelqu'un qui savait pas très bien enseigner. Il faut bien dire ce qui est très important. Il avait un peu le trac un peu d'enseigner, je pense. J'ai l'impression qu'il y a un livre qui est sorti sur lui il y a pas très longtemps où on raconte justement cette chose-là. Je pense qu'il y avait une appréhension de l'enseignement. Quelques étudiants aussi qui ont pas toujours été très faciles avec lui, je pense aussi. Donc tout ça créait une ambiance qui n'était pas toujours très facile. Moi, ça s'est très bien passé avec lui. C'est quand on sent que quelqu'un a un peu de mal à dire les choses, donc j'allais plutôt le chercher, si je puis dire, sur les sujets qu'il connaissait bien, notamment l'écriture et l'harmonie, donc il m'a beaucoup appris sur ce plan-là.
J'ai l'impression, lorsque vous parlez de vos professeurs, Robert Véran-Lacroix ou Laurence Boulet, sans évidemment, c'est pas une histoire de critique de ces professeurs-là, vous en parlez finalement comme s'ils représentaient une forme d'ancienne école du clavecin ou de la manière de l'enseigner qu'il y avait à cette époque-là, c'est-à-dire à la fin des années 70, autre chose à les découvrir. Et en particulier, c'est vrai que quand on se remet ces années 70 en tête, les baroqueux historiques pour nous rétrospectivement, c'est pas eux, c'en est d'autres.
Non, c'est sûr, bien sûr, parce que c'est toute nouvelle génération qui arrivait. C'est William Christie qui arrive en France à ce moment-là, d'ailleurs. Hein. Mais n'oublions pas non plus ces gens-là. Je suis toujours très sensible, moi, à l'histoire, à l'interprétation. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Je souris toujours quand j'ai entendu quelqu'un une fois me dire, par exemple, oh, maintenant, en musique baroque, on a à peu près tout découvert. Donc, il n'y a plus rien à découvrir. Je souris toujours parce qu'on est sans doute bien loin du conte, si tant est qu'il y a un conte. Mais en tout cas, il y a mille choses à découvrir et à connaître, évidemment. Donc, rendons justice à ces personnes qui, effectivement, ont joué cette musique-là d'une façon qui nous apparaît, effectivement, bien vieillie maintenant. Mais, encore une fois, prenons des gens ce qu'ils peuvent nous apporter. Ne cherchons pas chez un professeur quelque chose qui ne peut pas nous apporter. Prenons, au contraire, quelque chose qui nous apporte et faisons notre propre musique à nous avec différentes personnes.
Est-ce que vous connaissiez, lorsque vous arrivez au Conservatoire de Paris, les instruments anciens? Parce que je crois qu'à Annecy, vous jouiez plutôt, on va dire, des clavecins de type moderne et pas des historiques.
Non, à Annecy, on jouait des instruments, ce qu'on appelait des copies, quoi, ce qu'on appelle des copies. Le terme aussi est impropre, parce que on n'arrive pas déjà à se copier soi-même. Donc, c'est pas vraiment des copies, des instruments plutôt faits d'une façon traditionnelle. Mais le premier contact avec un instrument ancien, véritablement, ça a été au Conservatoire de Paris, donc où j'étais à un concert. Qui était donné dans la salle d'orgue, c'est rue de Madrid. On connaît plus la rue de Madrid maintenant parce qu'avec le nouveau conservatoire, le bâtiment a beaucoup changé. C'était un concert, je pense, avec Gilbert Bézina au violon et je me souviens plus qui au clavecin, mais c'était en tout cas un instrument. C'était le clavecin Hemge de 1761 qui est au musée de la musique actuellement, que j'ai enregistré plusieurs fois. Instrument plus qu'exceptionnel. Et donc Florence Gétroux, qui est au musée de la musique, au musée du conservatoire, qu'on appelait à ce moment-là, qui est devenue une grande amie, qui est une amie très proche, qui est une spécialiste de l'iconographie musicale, qui a fait des livres passionnants. Donc j'avais 19 ans, je pense, je vais la voir, et je lui dis, est-ce que c'est pas possible de jouer l'instrument? Elle me dit, si, bien sûr, prenez rendez-vous. Et là, donc, je me suis retrouvé un soir à 6h du soir, je me souviens très précisément, au 4e étage de la rue de Madrid, parce que le clavecin était en dépôt là avant de réintégrer les salles publiques du musée de la musique. Et donc j'ai joué pour la première fois cet instrument, et ça, je pense, c'est un des moments les plus fondateurs de son parcours de musicien, de claveciniste, parce que là, encore une fois, jouer un instrument ancien, ça vaut 25 professeurs à la suite. C'est-à-dire que c'est vous trouvez des choses par cette voix voix de nos maîtres, effectivement, et il y a des choses que vous ne trouvez que sur un instrument ancien, dans l'articulation, dans le poids des notes, dans la façon dont vous allez surlier certaines notes, dans la diction même, dans l'incroyable à la fois précision et tendresse qu'il y a dans ce son. Comme un bon vin, on peut pas comparer un grand vin âgé d'un vin nouveau, tout aussi formidable que soit le vin nouveau. Pour moi, le moment, j'ai souvenir très précis, à 18h, j'ai toujours, où c'était un coup de foudre, mais juste presque indicible, on va dire, c'est difficile de trouver les mots. La seule preuve de ça, c'est que évidemment, presque toute ma discographie, j'ai fait, je pense, 70 disques au moins, et presque essentiellement sur des clavecins anciens. Donc j'aime beaucoup le rapport avec l'objet ancien, aussi parce que il faut aller vers l'instrument. C'est-à-dire que je vois tout de suite, quand je vais souvent avec ma classe au conservatoire, on va souvent une journée au musée de la musique pour qu'ils puissent jouer des instruments, ce qui est toujours un petit événement pour eux, ce qui est bien normal. Mais on voit tout de suite les gens qui ont l'attitude qui convient, qui font tout de suite sonner bien l'instrument, et d'autres qui attendent tout l'instrument, alors qu'il faut solliciter l'instrument. Un instrument ancien, c'est un vieillard, il se rétracte par moment, donc il fait la tête quelquefois, c'est bien normal, et donc il faut aller vers lui. Il faut pas, si on attend tout d'un instrument ancien, il faut jouer un clavecin moderne, mais pas un instrument ancien.
En 1981, vous avez 21 ans, vous avez tous vos prix en poche, ça y est, Olivier Beaumont, à peu de choses près. C'est la période comme des rencontres, parce que quand on sort avec tous ces prix du conservatoire, surtout les classes dont vous nous avez parlé à l'instant, il reste quand même beaucoup à apprendre, et à apprendre en particulier du rencontre avec des personnalités. Je pense à Huguette Dreyfus, qu'il faut nous présenter, parce que c'est quand même une vraie légende du clavecin français.
Oui, absolument, c'était comme ma seconde mère, on pourrait dire. Huguette Dreyfus, elle était à mon jury de prix au conservatoire, et puis donc je l'ai appelée pour travailler ensuite après avec elle. C'est quelqu'un qui m'a énormément appris, qui a fait une très très grosse carrière, on le sait, qui est décédé en 2016. Tous ses anciens élèves, elle a fait travailler à peu près la terre entière. Donc tout le monde était très triste, très très grosse carrière chez deux gramophones, chez Archives, chez Denon, et puis beaucoup beaucoup de concerts. Ce que j'ai appris avec Huguette, je pense, c'est cette façon que rien n'est impossible techniquement, mais si on trouve la bonne formule musicale, si on trouve le bon geste, etc. Donc, je suis arrivé chez elle, je bougeais sans arrêt, vous savez, on bouge de moins en moins dans sa carrière, je faisais des tas de gestes dans tous les coins. Je me souviens qu'une fois, elle m'avait dit, je voulais jouer la fantaisie en ré mineur de Mozart, qui sonne très bien en clavecin d'ailleurs, et puis je faisais un très grand geste comme ça, je rodais tout un moment de récital, je commence avec un très grand geste, elle m'arrête, elle me dit, bon, les gestes à la Sarah Bernard, maintenant ça suffit. Donc, j'ai jamais oublié cette phrase, et ça vous reste pour toute votre vie, hein. Mais en dehors de l'anecdote, je pense que c'est quelqu'un qui m'a effectivement appris beaucoup sur le geste musical, sur la façon si on pense dans le bon sens la phrase musicale, vous trouvez tout de suite techniquement la chose qu'il faut. Donc elle m'a donné une assise technique au sens le plus large du terme. J'aime pas la technique n'est jamais réductrice bien sûr, mais c'est plutôt la technique, c'est le moyen de rendre ce qu'on veut rendre. Donc c'est-à-dire c'est tout. Enfin c'est énorme évidemment. Hein. Donc elle m'a beaucoup appris sur ce plan-là. On a eu des rapports très affectifs, je dirais. On a été beaucoup. J'étais très proche d'elle jusqu'à la fin. Je pense que Huguette Dreyfus un peu comme quelqu'un comme Marie-Claire Alain par exemple. C'est des gens dont on peut admirer beaucoup le parcours dans le sens que c'est une leçon pour tout le monde. Elle a effectivement travaillé avec une élève de Landowska et puis elle a fait un chemin stylistique assez impressionnant. La grande dame française de l'orgue, The First Lady of Organ, comme on dit pour Marie-Claire Alain, pour qui j'ai beaucoup de respect. Écoutez les trois intégrales Bach, le chemin stylistique aussi. Incroyable. C'est une leçon pour nous tous, encore maintenant, encore une fois, les gens pensent connaître tout de la musique baroque, se dire que l'important c'est d'évoluer, de se remettre en question aussi stylistiquement.
France Musique, les grands entretiens d'Olivier Beaumont.
Autre personnalité fondamentale pour vous, Olivier Beaumont, au début des années 80, vous rencontrez Kenneth Gilbert, qui est un claveciniste canadien, pédagogue aussi, organiste, enfin, exactement. Une personnalité, pour le coup, par rapport à toutes celles qu'on a évoquées jusqu'à présent, on va dire beaucoup plus ouverte, peut-être plus cultivée par certains côtés, en tout cas, c'est l'appréhension qu'on peut en avoir, et, enfin, que j'en ai moi, et peut-être aussi plus, je dirais, dans le mouvement baroque qu'une pouvait l'être vos précédents professeurs.
Exactement, c'est ça. Je pense que Kenneth a été un des premiers vraiment à jouer et à appréhender les instruments anciens d'une façon très précise, avec beaucoup d'intelligence, personnalité fascinante, moi qui, jusqu'à ces tout derniers moments, enfin, il est parti rentrer au Québec les dernières, toutes dernières années, mais quand il était encore à Paris, jusqu'en 2012-2013, on mangeait toutes les semaines ensemble, il m'a beaucoup aidé, c'est peut-être l'une des personnes les plus intelligentes, ça a l'air idiot de dire ça, mais que j'ai rencontré, une hauteur de vue sur le répertoire, mais surtout, on pouvait parler du film allemand des années 30, ou de Wagner, où il y avait une clairvoyance, une intelligence que j'ai rarement rencontré, une intelligence aussi toujours extrêmement positive. Il y a des très grandes intelligences qui ont parfois un côté un peu négatif, un peu sombre, ce qui n'était pas du tout son cas. Donc il m'a énormément appris stylistiquement, ça c'est sûr, sur le rapport à la partition. Il a fait beaucoup d'éditions, comme vous savez. Le rapport à la fois critique avec la partition ancienne, à la fois le très grand respect de ce qui nous vient de l'auteur, mais aussi la position critique si, effectivement, il peut y avoir une inexactitude dans la partition. Comme ça. Donc il m'a beaucoup appris sur ça. Il a toujours été formidable. Mon premier disque, je me souviens très bien, qui était consacré à Michel Corrette, il est venu au musée de la musique, puisque j'enregistrais un instrument ancien du musée. Il est venu l'écouter tout le programme. Et il s'est déplacé exprès, alors je ne connaissais pas très bien encore, donc pour me donner un cours. Et je pense qu'il a écouté chacun de mes disques. Là, évidemment, c'était pas une leçon du tout, mais c'était plutôt une rencontre entre un claveciniste confirmé et puis un plus jeune collègue, ce que je fais moi maintenant avec de l'autre côté de la barrière, on pourrait dire, et c'est quelqu'un qui m'a, oui, énormément apporté sur beaucoup de plans, sur un plan humain, et cette vision du répertoire. Je pense très clairement, quand on entend l'intégrale Couperin qu'il a faite, je pense, 68 pour Harmonia Mundi, et clairement, la façon de faire danser les danses, précisément, l'articulation des courantes, l'inégalité, la façon d'inclure l'ornementation dans le discours, enfin, qui jouait Couperin comme ça dans les années 68, personne. Clairement, pour moi, pour le clavecin en musique française, il a autant d'importance, peut-être qu'Arnoncourt dans d'autres domaines, ou évidemment Gustave Léonard. Donc, c'est quelqu'un qui est fondamental dans l'histoire du clavecin, je pense. Pour l'orgue aussi, c'était un très bon organiste aussi. Il est arrivé en France. Les clavecinistes étaient complètement séparés de l'orgue, jouaient jamais une seule note à l'orgue. Et donc, il m'a énormément appris sur tout l'aspect stylistique et, les deux m'ont appris tellement, à la fois Huguette et Canette, sur deux plans différents, que je me surprends dans mon enseignement à faire une sorte de mélange entre les deux. Mais les deux m'ont appris des choses différentes, mais qui ont été aussi fondamentales l'une que l'autre.
L'enseignement de Kenneth Gilbert, Olivier Beaumont, il était comment? Est-ce qu'il l'exigeait? C'est pas l'impression qu'il donne, on sait jamais, que l'élève lui ressemble, ou c'était une sorte de voie finalement qui était ouverte avec lui, sans formatage, on va dire.
C'est exactement ça, et je suis content que vous disiez ça, Lionel, parce que je me suis attaché beaucoup à ça moi-même dans mon enseignement. Et c'était pas un gourou, c'était pas quelqu'un qui formatait beaucoup les élèves du tout. Il avait un très grand respect de la musique de la personne qu'il avait en face de lui, en fait, de ce que la personne avait à dire musicalement. Et le plus beau cadeau qu'il pouvait nous faire, c'est de nous rendre autonomes sur un plan stylistique. Il m'a appris aussi beaucoup une chose qui n'était pas très française, c'est l'idée que pour bien jouer une toccata de Frescobaldi, par exemple, il faut en jouer 10. Et l'idée d'une sorte d'immersion stylistique, on ne peut pas jouer bien si on apprend une seule courante à la française, je veux dire, on ne sait pas la jouer. Hein. Alors, mais vous en travaillez 20, vous commencez à avoir un peu plus d'idées de la rythmique, etc. Donc ça, il m'a appris beaucoup cette façon de s'immerger dans un style, le fait qu'on est libre que si on est informé. Quoi. On n'est pas libre dans un style si on a fait juste une pièce. Donc ça, il m'a beaucoup appris sur ça. Et effectivement, il avait cette façon d'enseigner, je dirais presque un peu minimaliste, je pourrais dire, mais que moi qui me convenait très bien. Hein. Mais je pense que c'est quelqu'un, effectivement, qui avait cet art d'influencer beaucoup, mais sans du tout vampiriser ou sans du tout donner un côté qui serait trop mentor. Moi, j'aurais pas supporté en tant qu'étudiant, j'aurais jamais supporté quelqu'un qui me formate trop et qui me prenne trop d'importance sur... J'étais trop soucieux, j'ai toujours été de ma liberté, même si je savais que j'allais dans un sens dont je savais que c'était peut-être une impasse, mais j'avais besoin de m'en rendre compte moi-même. Il avait cette formule merveilleuse, Kenneth, quand visiblement il y avait quelque chose dans l'interprétation qui lui convenait pas du tout. C'était à l'évidence quelque chose n'était pas bien. Et il disait cette phrase très calmement, ça fait partie des bonnes idées qu'il faut peut-être mettre de côté. Donc quand vous disiez ça, généralement c'était quelque chose qu'il fallait complètement abandonner. Mais j'aimais la formule parce que il y avait une part de moi
façon, qui valorisante.
Voilà, exactement. Une part de moi qui résistait. Comme toujours, il suffit qu'on vous dise quelque chose qu'il faut pas faire, que vous ayez envie de le faire, comme c'est humain, comme tout le monde. Et je préférais finir par m'en rendre compte. Et il avait cette capacité formidable de suggérer les choses avec une autorité naturelle, comme ça, une dimension tellement formidable naturellement. Moi, ça m'a très bien convenu, cet enseignement-là, et j'espère continuer dans cette voie-là pour l'enseignement.
J'ai toujours l'impression de vous voir, moi, comme quelqu'un de très paisible, assez discret, très, très, très à l'écoute des autres. Et vous me parlez de vous, jeune homme, comme quelqu'un de presque farouche, en fait.
Non, farouche, je dirais bien jusque-là, mais c'est vrai que j'ai un aspect, je pense, calme aussi, effectivement. Je suis pas exactement dans l'hystérie, dans les rapports humains. En revanche, j'ai toujours su, depuis tout enfant, exactement ce que je voulais. Quand j'avais une idée fixe, toujours sourire mes parents parce que je me fâchais jamais, par exemple, mais, j'avais envie d'une gomme, n'importe quoi, j'avais trouvé dans une papeterie. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette gomme. Et par exemple, t'as déjà 4 gommes, ça va, ça suffit, c'est pas bien, non, rien. Je me fâchais jamais. Puis j'en faisais toujours, tiens, j'ai vu cette gomme, qu'est-ce qu'elle est bien, jusqu'à ce que mes parents en aient tellement assez, bien sûr, qu'ils finissent par acheter la gomme. Le principal étant de faire céder les parents et pas d'avoir une nouvelle gomme. Tout le monde connaît ça en analyse. Je pense, hein, on connaît tous ça. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté très déterminé, très gentil. Et qui fait qu'effectivement, j'ai toujours voulu faire, enfin, essayer le plus vite de faire ce que j'avais envie de faire, mais sans forcément avoir des manifestations très extravagantes du désir et de la volonté.
Vous avez déjà évoqué Olivier Beaumont, 1982, c'est votre premier disque, oui, consacré à Corrette. On a l'impression que ça va très très vite quand même, parce que vous sortez à peine du conservatoire avec vos prix, oui, et un disque, dont vous écrivez d'ailleurs aussi le livret.
Oui, exactement. Et c'est vrai que j'ai trouvé un agent rapidement aussi. Donc c'est vrai que les choses sont enchaînées rapidement. J'ai pas passé de concours internationaux. Oui. Aussi parce que les choses se sont enchaînées un peu rapidement pour les concerts et tout ça. Aussi parce que je pense que je suis pas une bête à concours. J'ai pas une grande passion. Je me méfie un peu des gens qui à 30 ans, 35 ans continuent à passer des concours. Je trouve ça toujours un peu bizarre. Le manque d'envie de se mettre dans la musique elle-même. Enfin, dans ce pourquoi fait un musicien, c'est une rencontre avec un public. Donc, c'est vrai que j'ai pas passé de concours. Ce premier disque, c'était une histoire d'amour avec Corrette, effectivement, Michel Corrette. J'avais envie d'enregistrer les œuvres de quelqu'un de jeune, je pense. C'était un peu l'idée quand j'étais à ce moment-là. Et donc, j'ai enregistré ça sur le clavecin Jean-Claude Goujon du conservatoire, qui est un instrument splendide que j'ai réenregistré après. Et donc c'est vrai que le premier disque a été important pour moi parce que c'était je me suis mis à aimer tout de suite beaucoup le rapport avec le micro. J'ai toujours beaucoup aimé l'enregistrement. J'aime cette solitude dans le studio avec des gens qui sont avec vous, qui vous accompagnent toujours en cabine. J'ai toujours aimé beaucoup ça. J'ai beaucoup aimé aussi l'idée qu'on travaille pour quelque chose à venir. Ce qui est beau dans le concert, c'est le moment un peu la magie de l'instant présent, mais le disque est beau aussi pour ça, c'est-à-dire que c'est aussi parce qu'on travaille sur quelque chose à venir. Et ça, c'est aussi fascinant.
Je reviens sur le livret. Ça dit bien que vous aviez déjà une plume, une envie d'écrire, une envie de lier la musique au savoir qui peut aussi être comme une nébuleuse tout autour de lui.
Oui, c'est vrai. J'ai toujours eu une passion pour l'écrit qui a continué d'ailleurs parce que je pense qu'il n'y a pratiquement pas un seul disque où j'ai pas fait peut-être un ou deux, mais où j'ai pas fait mon texte moi-même de pochette plus les livres que j'ai publiés. Donc c'est vrai que c'est une chose. J'avais envie de parler de la musique. Je trouve que la personne qui peut le mieux parler de son disque, c'est soi-même. Souvent, c'est que pourquoi on a choisi tel critère d'interprétation, pourquoi on a choisi tel instrument, pourquoi on a choisi ce répertoire. Et c'est vrai que j'ai toujours fait ça, mais vous avez raison, c'est un des tout premiers textes qui a été publié. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce rapport à l'écrit qui était très, très important pour moi.
Alors c'est l'époque où, bien sûr, on rencontre aussi sinon des doubles, au moins des amis. Enfin, je dis doubles parce qu'il y a, je pense à deux compagnons en particulier, des compagnons de route musicaux qui sont pour l'un très proches, puisque c'est un claveciniste, David Moronet, l'autre un peu plus lointain parce que c'est un pianiste et ô combien romantique, Jean-Marc Luisadard. Je les cite tous les deux parce que c'est peut-être deux manières aussi de définir ce que vous pouvez être à cette période-là, ces rencontres avec ces deux claviéristes aussi, qui sont chacun des personnalités très différentes.
Oui, exactement. La rencontre avec David s'est faite avec Kenneth Gilbert, je pense, à Annecy, je pense, c'est la fois que j'avais rencontré. Donc David a 10 ans de plus que moi, que tout le monde le sait, une belle carrière de claveciniste, de chercheur aussi, et donc c'est un peu comme un frère pour moi musicalement. C'est typiquement le genre de personne, comme d'autres clavecinistes avec qui j'ai pas travaillé bien sûr, mais qui ont pu m'influencer par la démarche et par des choses qui m'ont beaucoup intéressé dans leur parcours. On a joué souvent ensemble, on a fait un disque à quatre mains même pour Virgin. Et puis Jean-Marc, c'est comme mon frère, on s'est rencontré, je pense, même avant son prix Chopin, on s'est rencontré en 82-83 je pense. On a fait les 400 coups ensemble, on pourrait dire. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et même s'il y a des moments on se voit moins parce que la vie ou les activités musicales font ça. Je sais que si je suis quelque part dans le monde et que j'ai le track pour un concert, c'est lui que j'appellerai avant un concert, c'est sûr. Et je pense que lui aussi. Les grands amis, on ne peut avoir que beaucoup d'admiration pour eux. Enfin, je suis pas ami avec quelqu'un que j'admire pas beaucoup, je pense honnêtement. Je pense que c'est inhérent à l'affection. Pour moi, l'affection et le... Amicalement, amoureusement, ça peut être différent. Mais amicalement, je pense qu'on a besoin de cette estime et cette admiration. Et je trouve chez Jean-Marc qu'il y a cette imagination sonore qui est quand même formidable. C'est ce sens de la beauté du son dans Chopin et dans Schumann notamment. En plus, vous le savez, c'est un cinéphile inimaginable. Donc j'aime bien le cinéma, mais pas à ce point-là. Vous avez raison de dire que ces deux personnes étaient tellement différentes avec qui j'ai été ami dans les années 80. Tellement à l'opposé, c'est trop fort, enfin, qui s'entendent très bien, mais enfin, on ne peut pas imaginer plus différent comme tempérament musical entre David Moronet et Jean-Marc Luisadard. Mais les deux m'ont tellement plu, c'est deux parts de moi aussi qui m'ont beaucoup plu. Thank you.
Jean-Marc Luisada au piano dans un extrait de la 21e sonate de Franz Schubert. Merci à Marie-Christine Ferdinand, Lionel Quentin, Sébastien Huel et Nicolas Depagraf. Vous retrouvez les grands entretiens sur le site francemusique.fr et sur l'application Radio France. À demain pour notre troisième épisode.
À réécouter sur francemusique.fr.